Chapitre 12. juillet vers 13h. Mossette, au bord d'un grand champ de lavande en contrebas du village. Johan devrait choisir nos destinations plus souvent. On n'est pas encore entré dans le village, on l'aperçoit seulement depuis ici en contrebas. On peut voir ses murailles et ses maisons juchées sur le gros rocher. On s'est arrêté dans ce champ de lavande pour manger un morceau et pour profiter de la vue. Il n'y a pas seulement le village de Mossette à admirer. Il y a cette église en ruine, la chapelle Notre-Dame de Corbiac. Une vieille et grande église de l'époque romane. Un panneau à l'entrée indique qu'elle a été rachetée par un couple d'Anglais qui y entreprend des travaux de rénovation. Après le repas, on entrera dans le village et on cherchera un parking où garer le camping-car avant d'aller découvrir les ruelles. Ils n'ont pas trouvé de parking où ils étaient autorisés à stationner le camping-car. Ils ont fait deux fois le tour du village pour en être certains, puis ils ont décidé de faire quelques courses dans une supérette avant de redescendre en contrebas du village. Ils ont laissé le véhicule sur le bord d'une minuscule route de campagne et ils sont remontés à pied avec leur sac à dos pour explorer Mossette. Lorsqu'ils entrent dans le village, la chaleur est déjà en partie retombée. Ils passent l'un des trois portails qui permettent d'atteindre l'intérieur des murailles. Le portal de Santa Maddalena. Mossette a conservé une allure de village montagnard et féodal. Les murailles qui protégeaient le château des seigneurs sont encore là, ainsi que les portails de Cum Gelada et celui de França. Au sommet du clocher de l'église, chose incroyable, se dresse un pin pluricentenaire. Cela semble être l'attraction des touristes. Ils s'enfoncent dans les ruelles à l'ombre du soleil. Ils s'arrêtent devant un grenier à grains, puis devant une enseigne de menuisier sculptée dans la pierre, arborant fièrement son rabot comme blason. Un four à pain d'époque les laisse béats. Plus tard, ils font une pause auprès d'un lavoir et Émile regarde Johan s'y tremper les pieds.
« Ça t'a plu ?»
La nuit est tombée. Ils ont regagné leur camping-car en contrebas du village après avoir déambulé plusieurs heures dans les ruelles.
« Ouais, j'adore ce village. »
Ils se sont attablés comme à leur habitude sur la table pliante devant le camping-car. La route est très peu fréquentée. Ils ont bien fait de se garer ici.
« On devrait marcher un peu moins »,
déclare Johan en remplissant leurs assiettes d'un ragoût à base de carottes.
« Pourquoi ça ?»«
Il y a deux jours, tu faisais un malaise. »
Il plante sa cuillère dans le ragoût et la porte à sa bouche.
« Ouais, » fait-il la bouche pleine. « T'as raison. »
Il ne sait pas ce que c'est. De la purée, une soupe, un écrasé de carottes. Ça n'est vraiment pas mauvais. Ils ont acheté ces carottes à la supérette en haut.
D'autant que la prochaine fois, je veux pas que tu me ramènes à l'hôpital.
Elle laisse tomber sa cuillère, surprise par sa déclaration.
Quoi ?
Il termine d'avaler sa bouchée.
J'ai réfléchi. Je veux pas qu'on se marie.
Elle reprend sa cuillère avec des gestes lents, hausse les épaules.
D'accord.
Il ne parvient à déceler aucune émotion sur son visage, ni déception, ni autre chose. Bien sûr, tout cela lui est égal. Elle proposait de lui rendre un service, rien de plus. Il continue de manger en silence, au milieu du bruit des cuillères qui raclent leurs assiettes.
Alors, si tu tombes à nouveau, qu'est-ce que je fais ?
Il se trouve incapable de répondre.
Je m'occupe de toi moi-même ?
Dit comme ça, il songe qu'il est parfaitement égoïste, qu'il lui impose une tâche énorme. Mais il est incapable de lui donner une réponse logique et pertinente. Il ne peut pas lui demander d'être son infirmière, de le rapatrier seul au camping-car, de le soigner. Il ne peut pas non plus lui demander de passer son chemin et de le laisser au bord de la route. On le trouvera. On le rapatriera à l'hôpital. Il finira au centre d'essai clinique. Il sera de nouveau à la charge de ses parents. C'est ce qu'il cherche à éviter à tout prix. Johan attend toujours. Il tente de bafouiller.
Il y a une autre solution. Je pourrais prendre une autre identité. C'est faisable, ça, non ?
Il est heureux qu'elle reste impassible, qu'elle ne fronce pas les sourcils, qu'elle ne lève pas les yeux au ciel, qu'elle ne le regarde pas comme quelqu'un de parfaitement ridicule. « Je vais me renseigner. Demain, je vais me renseigner. Si je prends une autre identité, je pourrai me rendre à l'hôpital sans risque. »
Elle hoche la tête lentement.
« D'accord. » Elle ne doit pas l'en croire capable une seule seconde. Comment ferait-il ? Avec quel papier ? Il n'en a aucune idée. Il continue de manger en silence. Plus tard, ils font la vaisselle tous les deux, dans le même silence tendu. Il nettoie et elle essuie. Elle n'a rien demandé, mais il le lui dit quand même.
« Ça n'a rien à voir avec toi si je refuse cette idée de mariage. »
Il se retourne pour pouvoir voir son visage. Elle conserve une expression neutre.
« Je sais, » dit-elle.
Il lui tourne de nouveau le dos et recommence à frotter la casserole dans l'évier.
« C'est juste que je peux pas imaginer me marier si c'est totalement vide de sens. J'ai... »
Il s'interrompt, les mains pleines de mousse au-dessus de l'évier.
« J'ai ce côté fleur bleue, ça peut te paraître un peu dingue. J'ai besoin que ce geste ait du sens. »
Il la sent acquiescer dans son dos. Quelques secondes passent. Quand elle parle, c'est avec une douceur extrême dans la voix.
« Tu t'es imaginé que c'était totalement vide de sens ?»
Il est obligé de s'interrompre, de fermer le robinet d'eau, de poser son éponge, puis se retourner et lui faire face.
« Qu'est-ce que tu veux dire ?»
Elle a les sourcils légèrement froncés.
« Ce n'est pas parce qu'on n'est pas amoureux que ce geste n'aura aucun sens. Je ne le ferai pas non plus s'il n'avait aucun sens à mes yeux. »
Il continue de la fixer sans rien dire, les mains pleines de mousse.
Ça a un sens. C'est une promesse que je te fais. Ou plutôt un engagement que je prends. Pour que tu sois certain que je suivrai tes instructions jusqu'au bout, que je protégerai ta liberté coûte que coûte, que je veillerai sur toi jusqu'à la fin. Ça n'est pas un mariage d'amour, c'est vrai. Mais ça n'est pas totalement dénué de sens, non ?
Il secoue la tête tout doucement. Non, bien sûr que non. Elle a raison.
Non, c'est vrai.
Se marier avec elle n'a pas la signification qu'il s'attendait à trouver, mais ça n'est pas quelque chose de vide. Il s'est trompé. Il lui faut quelques secondes avant de pouvoir recommencer à parler.
Et pour toi, quel sens ça a, tout ça ? Qu'est-ce que tu y gagnes ?
Une expression douloureuse traverse son visage, un aveu de faiblesse. C'est la première fois qu'il peut lire à travers ses traits lisses. Elle souffre, énormément. Il ne sait pas pourquoi, mais à cet instant, il comprend que c'est la raison pour laquelle elle s'est renfermée en elle-même, la raison pour laquelle elle mime l'indifférence et n'exprime aucune émotion. Il y a trop de douleur en elle. Si elle laisse échapper ne serait-ce qu'une parcelle de cette douleur, un torrent la rattrapera et il ne sait pas si elle y survivra. Elle a la voix lourde et profonde lorsqu'elle répond
« J'ai à nouveau une raison d'avancer. »
Il l'avait compris, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Deux jours ont passé sans qu'il ne s'en aperçoive vraiment, à la fois très vite et très lentement. Émile s'est beaucoup reposé. Il a passé la majorité de son temps à la petite table, devant le camping-car ou sous un arbre, le long de la petite route. Il a fait des siestes, a écrit quelques lignes dans son carnet, s'est essayé à la composition d'un gazpacho avec les légumes que Johan a ramenés du marché le deuxième jour. Johan est partie de longues heures dans Mossette et ses alentours. Elle s'est promenée dans les ruelles pavées et dans les champs de lavande. Elle est revenue avec des bouquets de lavande séchée qu'elle a disposés sur le plan de travail dans le camping-car. Elle a déambulé sur le petit marché de Mossette à rapporter des légumes de toutes les couleurs. Ils n'ont reparlé du mariage que le deuxième soir, alors qu'ils buvaient leur thé au bord de cette petite route si peu fréquentée. Émile a dit
« On ira à la mairie demain. »
Et Johan a compris. Ce matin, ils marchent tous les deux sous un soleil de plomb pour atteindre le village entouré de murailles. Ils sont heureux de constater que la mairie est ouverte. Ils ne savent plus quel jour ils sont. Ils craignaient d'être dimanche. Dans le hall, Johan s'arrête longuement devant un présentoir recouvert de prospectus. L'employé derrière son bureau finit par s'impatienter, ne les voyant pas approcher. et elle se racle la gorge.
« Bonjour, je peux vous aider ?»
Johan sursaute. Émile lui fait signe de le suivre et ils s'avancent tous les deux devant le guichet d'accueil.
« Bonjour. »
Émile a la voix légèrement plus rauque que d'habitude.
« On vient vous voir car on aimerait se marier. »
Il a parlé d'une voix étrange, d'une voix sourde qui lui paraît étrangère. L'employé de mairie s'attarde un instant sur leur tenue de randonnée.
« Vous êtes résident de la commune ?»
demande-t-elle d'une voix sans amabilité. C'est Johan qui répond, ce qui surprend Émile.
« Non, on est de passage. »
La femme produit un bruit étrange en claquant sa langue contre son palais.
« Alors ça ne sera pas possible. »
Un silence plane dans le hall trop grand et froid de la mairie.
« Ah !» fait Émile.
L'employé secoue la tête.
« Le mariage ne peut s'effectuer que dans la mairie de la commune de résidence d'au moins l'un des époux. »
Ils échangent un regard rapide et embêté. Ils n'ont pas imaginé que cela poserait problème. Émile ne sait que répondre. Johan danse d'un pied sur l'autre. Elle tente d'expliquer.
« C'est qu'on voyage beaucoup. On n'a pas vraiment de domicile fixe. »
L'employé s'enfonce dans son fauteuil avec un air entendu.
« Je vois. Dans ce cas, laissez-moi vérifier. »
Elle fait pivoter son siège de bureau et se lève pour aller fouiller dans une grosse armoire contre le mur. Elle en sort un lourd dossier qu'elle pose sur le comptoir.
« Je vous demande quelques petites secondes. »
Ils hochent la tête tous les deux avec précipitation. Il la regarde extraire du dossier l'une des feuilles plastifiées. Ils suivent ses yeux qui sautent d'une ligne à l'autre, sa bouche qui se pince puis s'étire en un sourire de satisfaction.
« Oui, » finit-elle par lâcher. « Ça y est, j'ai l'information. »
Ils attendent, suspendus à ses lèvres.
« La commune de célébration du mariage doit être soit celle de domicile, soit celle de votre résidence. »
Ils échangent un regard incertain. Ils ne comprennent pas vraiment la nuance.
« Dans le cas où la commune est votre lieu de résidence et non de domicile, il faut qu'au moins l'un des deux époux y soit établi depuis plus d'un mois. »
Elle repose la feuille sur le comptoir, les regarde tous les deux. Johan fronce le nez. Elle est en train de réfléchir. Émile se gratte le menton. C'est le geste qu'il fait toujours quand il est nerveux.
« Établi, finit-il par lâcher, c'est-à-dire ?»«
C'est-à-dire que vous y vivez. »
Elle semble le prendre pour un idiot ou quelqu'un de très lent d'esprit.
« On est en camping-car, déclare-t-il.
Je crains que dans ce cas, cela ne fonctionne pas. »
L'employé de mairie attend une réaction de sa part. Il bredouille une réponse vague.
« Bon, d'accord, on va voir comment faire. »
Elle hoche la tête.
« Si vous décidez de vous établir ici et de vous marier, pensez à en avertir la mairie. Il y a un dossier de mariage à déposer en mairie avec un certain nombre de pièces justificatives. Nous devons publier les bans et les afficher pendant 10 jours devant la mairie. Vous ne pourrez vous marier qu'au 11e jour. Pensez à anticiper si vous décidez de vous marier ici. »
Émile se gratte de nouveau le menton.
« Les justificatifs, c'est-à-dire ?»
L'employé vérifie sur la feuille qu'elle a sortie du dossier.
« L'original est une photocopie de la pièce d'identité, un justificatif de résidence, c'est-à-dire une facture quelconque, les informations sur les témoins ainsi que leur pièce d'identité et une copie intégrale de vos actes de naissance. Et ce sera tout. »
Il recommence à se gratter le menton.
« Pour les témoins ?»
Elle comprend immédiatement quelle est sa question.
« Vous n'en avez pas ?»
Ils secouent la tête tous les deux dans un même mouvement. À ce stade, elle n'a même plus l'air surprise. Elle doit les prendre pour un couple de marginaux.
Vous devez en avoir au moins 2. Les employés de mairie sont autorisés à vous servir de témoins.
Le silence retombe dans le hall de la mairie. L'employé lit le soulagement sur leur visage. Un courant d'air chaud traverse le hall au moment où, derrière eux, la porte vitrée s'ouvre. Une vieille dame approche, courbée en deux. Ses pas résonnent sur le carrelage.
Ce sera tout, messieurs, dames ? Demande l'employé.
Ils acquiescent tous les deux.
« Oui, c'est parfait, merci. »«
Merci à vous, au revoir. »«
Au revoir. »
Ils redescendent les ruelles plus lentement qu'ils ne les ont montées. Ils sont un peu découragés par tout ce qu'ils viennent d'entendre.
« Comment on va faire ?» interroge Émile.
Le petit visage de Johan refait surface sous son chapeau quand elle lève la tête vers lui.
On va devoir s'installer quelque part pendant un mois. Prendre un studio meublé, n'importe quoi.
Ouais.
Soit ici, soit ailleurs.
Il est toujours un peu découragé. Tout cela lui semble bien compliqué. Johan prend la chose beaucoup plus légèrement. Elle a un pas aérien, insouciant presque.
Si on doit se poser si longtemps à un endroit, il faut qu'on s'y sente bien, ajoute-t-elle.
Ouais.
Regarde ce que j'ai récupéré dans le hall.
Elle lui tend un prospectus qui s'intitule Eous, l'un des plus beaux villages de France, classé monument historique. On y voit un village ancien composé de minuscules ruelles en pierre, perché sur un flanc de montagne, entouré d'une végétation luxuriante et colorée. Ça semble magnifique, encore davantage que Mossette.
C'est où ? Interroge-t-il.
À 15 kilomètres.
Tu veux qu'on s'y installe ?
Elle hausse les épaules.
Je sais pas encore.
Elle remonte son chapeau tombé sur son front.
Mais je veux bien voir comment on s'y sent.
D'accord, on peut aller voir.
24 juillet. Renaud. Une nouvelle étape sur notre chemin. Cet après-midi, nous quitterons Mossette pour un village nommé Eous. Ce voyage est serein. Je ne m'attendais pas à trouver autant de sérénité et de paix intérieure dans une déambulation sans but.
Tu ne me reconnaîtrais pas. D'ailleurs, regarde comme je parle.
Paix intérieure. Johan doit me taper sur le système définitivement.
Pourtant, tu vois, je trouve du plaisir rien qu'en restant assis, rien qu'en regardant les étoiles ou la course des nuages, rien qu'en m'allongeant à l'ombre des arbres.
J'ai même pris du plaisir à me lancer dans la confection d'une gelée de lavande pour faire plaisir à Johan. Le pot refroidit, la gelée a l'air plutôt réussie. Tu vois, je me transforme. En mieux, je crois. Je te laisse en juger. Je me surprends à trouver du plaisir dans des choses insignifiantes, dans des gestes bateaux du quotidien. Mais ça n'est pas vraiment l'objet de ma lettre. Non. L'objet de ma lettre, c'est une grande nouvelle que je dois t'annoncer. Je vais me marier, Renaud. Ne saute pas de joie. Ça n'est pas une blague, mais ça n'est pas non plus exactement ce que tu crois. Il ne s'agit pas d'un mariage comme celui que tu as connu avec Laetitia. C'est une idée de Johan. Elle est prête à faire ça pour pouvoir devenir ma responsable légale en cas d'hospitalisation ou de décision importante à prendre. Elle fait ça pour m'empêcher de finir en centre. Je pense que c'est justement parce qu'elle ne m'aime pas qu'elle saura prendre les bonnes décisions. On va entrer dans les préparatifs du mariage, mais il ne s'agira pas de choisir le traiteur, d'essayer des costumes ou de louer une superbe voiture d'époque pour arriver à l'église. Non, il s'agira seulement d'une tâche administrative un peu pénible qu'on sera bien soulagé d'avoir réglée. Tu te rappelles le jour de ton mariage ? On avait du mal à croire que c'était bien toi, ce gars en costume, que c'était à toi que ça arrivait. Tu m'avais dit une phrase qui ressemblait à « Le gamin que j'étais ne m'aurait jamais cru si je lui avais dit qu'un jour il serait là ». Tu ne pensais pas te trouver un jour devant l'hôtel aux côtés d'une Laetitia. Tu n'as jamais cru qu'un jour ta vie ressemblerait à ça. Eh bien, ça me fait un peu la même impression, mais différemment. Quand j'étais gosse et que je m'imaginais en mariée, c'était un joli mariage que je voyais. Une église en pierre, une jolie brune en robe blanche, des convives, la fête. Jamais je n'aurais cru que ça ressemblait à ça. Des photocopies de papiers officiels à réunir et la hâte d'en finir. Je ne pensais pas que la mariée aurait déjà un amoureux, qu'il l'attendrait quelque part près de Saint-Malo. Mais bon, il faut croire que la vie nous réserve des surprises. Ce voyage, par exemple, et cette sérénité, c'est une bonne surprise, ça. Renaud, je vais maintenant devoir te laisser. Johan est prête. Nous allons pouvoir reprendre la route. Je te donnerai des nouvelles dès que nous serons installés à Eous. Je t'embrasse. Je pense bien fort à vous. Émile. Ils arrivent à Eous dans l'après-midi sous une chaleur de plomb. On dit d'Eous qu'il est le village le plus ensoleillé de France. La chaleur est écrasante en tout cas. Ils stationnent le camping-car sur un parking juste avant les murailles. Ils vont faire comme à Mossette. Ils vont découvrir le village à pied. À peine descendus du véhicule, ils restent immobiles de longues secondes. Eous est là, devant eux, sur l'éperon rocheux qui leur fait face. c'est un ancien village fortifié accroché au flanc sud de la montagne, construit en terrasse dans la garrigue entre la vallée de Conflans et le mont Canigou. Le point culminant du village est le clocher d'une cathédrale. Émile tente de s'arracher à la contemplation.
« On prend les sacs à dos et on y va ?»
Johan acquiesce. Ils ont à peine franchi la muraille qu'ils sont interceptés par un vieil homme.
« Vous êtes touriste ?»
Le vieux a des cheveux blancs clairsemés. Il porte un ancien gilet de berger et un béret. De prime abord, il semble un peu fou. C'est Johan qui répond, surprenant Émile.
« Bonjour, monsieur. Oui, on est touriste. »
Il regarde le vieux approcher, avec des petits pas qui semblent lui coûter un effort surhumain. Il sourit de sa bouche édentée.
« Bienvenue !»
lâche-t-il lorsqu'il se trouve enfin devant eux. Johan hoche la tête pour le remercier. Émile reste un peu en retrait. Le vieux leur tend une main qu'ils serrent tous les deux avec hésitation.
« Je peux vous faire visiter, je connais ce village par cœur !»
Johan se tourne vers Émile, attendant son accord. Il est méfiant. Elle, pas du tout, pour une fois. Il ne sait pas ce qu'il doit dire, s'il doit préciser aux vieux qu'ils n'ont pas de monnaie sur eux. Mais une voix retentit à leur gauche, et ils découvrent la fenêtre d'une maison, ouverte, et à l'intérieur, une dame d'une cinquantaine d'années portant un tablier jaune.
« Ne vous en faites pas, jeunes gens! C'est Jean! Il est la mémoire de ce village !»
Elle parle avec un sourire amusé.
« Ça fait des années qu'il guide le moindre touriste qui entre ici !»
Il lui adresse un sourire poli.
« Ah, d'accord !»
La dame ajoute.
« Vous en apprendrez beaucoup plus avec lui qu'avec n'importe quel bouquin !»
Le vieux les attend, les mains croisées derrière le dos.
« Alors, vous venez ?»
Et Émile acquiesce.
« Oui, on vous suit. »
Ils ont bien fait d'accepter. Outre le fait qu'ils ont peur d'épuiser le vieux à grimper les ruelles pavées sous ce soleil de plomb, ils sont ravis d'avoir accepté son invitation. Jean parle beaucoup, même lorsqu'ils gravissent les ruelles escarpées. Il ne s'essouffle jamais. Il leur raconte l'histoire de la cathédrale Saint-Vincent qui domine le village et d'où partent toutes les ruelles pavées du village. L'église a été érigée sur les ruines de l'ancien château. D'ailleurs, leur explique-t-il, derrière l'église, on peut trouver encore quelques-unes de ces ruines. L'église a été construite, raconte-t-il, par les habitants du village eux-mêmes. Les plus riches ont donné l'argent, alors que les plus pauvres ont offert des journées de travail.
Les hommes montaient les murs, les femmes portaient les pierres. Elles pesaient environ 150 kilos chacune.
Jean explique que les pierres étaient tellement lourdes à porter et que la tâche demandait un tel effort que de nombreux bébés n'avaient pu voir le jour.
Les enfants et les femmes moins vigoureuses apportaient des paniers de terre pour monter un échafaudage naturel à l'intérieur des murs.
L'église Saint-Vincent est appelée église haute, en opposition à l'église basse, une chapelle romane qui se trouve au bas du village. Ils bifurquent dans les ruelles escarpées, passent sous les arcades d'époque, s'arrêtent devant les vestiges de l'ancien chemin de ronde. De nombreuses maisons ont un renfoncement arrondi assez étrange. Jean leur explique qu'il s'agit de fours à pain individuels de l'époque, parfois encore utilisés de temps à autre. Ce vieux bâtiment massif est le presbytère. Les petites boutiques ouvertes, qui attirent les touristes, sont pour la plupart des boutiques d'artistes. Sculpteurs de marbre et de pierre, peintres de vitraux, joailliers, coutelier, dessinateur. Johan est aux anges. Émile voit ses yeux s'illuminer devant chaque enseigne. Jean poursuit inlassablement son chemin sans cesser de parler. Ils arrivent enfin au point culminant des housses, la cathédrale Saint-Vincent. Jean leur désigne la végétation en contrebas qui entoure le village.
Vous en verrez nulle part ailleurs des mélanges de cactus et de mimosa comme ceci.
Ils se tournent vers le nord, leur désigne quelque chose au loin.
Si vous continuez dans cette direction, vous arriverez dans un ancien village dont il reste aujourd'hui que des ruines. Il s'appelle Côme. Là-bas, il reste plus que des pierres et une église.